pris du temps là pour le louer par nos témoignages, par nos chants, par nos prières. Et on veut encore le louer en se mettant à l'écoute de sa parole. Alors, est-ce qu'il y a le groupe d'ados ce matin? D'accord, donc il y a, pour les ados, il y a un temps maintenant pour vous. Les enfants, je crois qu'il n'y a pas de rencontre ce matin pour les 4-10 ans, mais pour les 12, 15, 12, 16 ans ou 11, 16 ans. Voilà, vous avez un temps avec Joatal. On va juste prier pour eux alors avant qu'ils aient ce temps d'enseignement pour eux. Je vous invite à prier. Seigneur, merci encore pour ce temps de culte tous ensemble, de toutes les générations. Seigneur, nous te remercions pour ces jeunes que tu as placés aussi au milieu de nous, dans nos familles, et te demandons d'être avec eux pour ce temps d'enseignement, que tu leur parles par ta parole, que tu sois avec Joatal aussi, que ton esprit agisse parmi eux, et que ce soit des bons moments aussi dans ta présence, Seigneur. Nous demandons cela pour eux au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alors ça tombe bien parce que c'est vrai que le thème de ce message ce matin, ça fait largement écho à ce qui a été vécu jusque-là, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, il y a eu des témoignages. On a dit merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies. On a eu des prières autour de la louer Dieu et des chants aussi qui nous ont invités à bénir l'Éternel en tout temps, quelles que soient les circonstances. Et c'est vrai qu'on arrive vers la fin de l'année. Pour moi, c'est mon dernier dimanche de l'année avec vous, parce que voilà, on sera la semaine prochaine un peu dans la famille pour les fêtes. C'est dernier dimanche avec vous. On se retrouvera pour le réveillon le 31, pour ceux qui seront là. Et en cette période de fin d'année, c'est souvent un temps où nous faisons le point un peu sur l'année écoulée. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à faire cela dans cette période, dans un état d'esprit de reconnaissance, en regardant et en tournant nos regards vers le Seigneur et en apprenant à lui dire merci. Alors c'est vrai que c'est plus facile d'être reconnaissant pour l'année écoulée si cette année vous avez vécu des temps heureux, des temps peut-être plus faciles, vous étiez en bonne santé, que tout est bien allé, peut-être certains ont gagné au loto, je ne sais pas. Bon, si c'est votre cas, c'est tant mieux. Mais dans la réalité, on sait que c'est souvent plus compliqué. Peut-être que pour certains, 2024 a été une année marquée par la maladie, ou par le deuil, par certaines formes de souffrance. Alors comment être reconnaissant, même si on a vécu une année pourrie, on pourrait dire? La première chose que j'aimerais rappeler ce matin, et qui me semble utile, c'est que la reconnaissance, c'est au cœur de la foi chrétienne. Dire merci, c'est au cœur de la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que la foi chrétienne commence lorsque nous reconnaissons la grandeur du salut que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ. C'est le fondement de la vie chrétienne. Ça consiste à accueillir le cadeau que Dieu nous a fait en envoyant Jésus-Christ, notre Sauveur. Dire merci à Dieu, c'est un peu le béaba, hein, c'est le fondement, le point de départ de la vie chrétienne. Sans reconnaissance, nous nous excluons du salut offert en Jésus-Christ. Et il y a un récit de l'évangile de Luc qui me semble bien illustrer cet aspect. Et je vous invite à le lire ensemble, c'est dans Luc chapitre 17 et on va lire au verset 11. Luc 17, verset 11. Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les neuf autres? Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, sinon cet étranger? Puis Jésus lui dit, relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Et je crois que cet épisode montre bien le lien entre la foi et la reconnaissance par rapport au salut. Il y a un seul à qui Jésus va dire, va, ta foi t'a sauvé. C'est celui qui revient en louant Dieu, en s'agenouillant devant Jésus pour le remercier. On pourrait se demander, pourtant, les autres lépreux, est-ce qu'ils n'avaient pas confiance en Jésus? Rappelez-vous, ce sont quand même les 10 lépreux qui ont crié à Jésus, « Maître, aie pitié de nous !» S'ils ont crié à Jésus, c'est parce qu'ils savaient que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux, qu'il pouvait les guérir. Et lorsque Jésus leur dit d'aller se faire examiner pour voir les prêtres, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils disent, bah, pour l'instant, moi j'ai toujours mes maladies de peau, je ne sais pas pourquoi je vais aller voir le prêtre? Non, ils y vont, et sur la route, ils vont être guéris, nous dit le texte. Les 10 lépreux savaient bien, lorsqu'ils quittaient Jésus, qu'ils sont encore malades. Et pourtant, ils partent, parce qu'ils ont confiance, ils ont une certaine foi dans la capacité de Jésus pour les guérir. Et pourtant, ce n'est pas ici l'essentiel. Le récit ne s'attarde pas ici sur les capacités de ces lépreux à croire en la puissance de Jésus pour les guérir, mais plutôt sur la reconnaissance de celui qui revient pour louer Dieu et pour remercier Jésus. Et c'est à lui que Jésus va dire « Va, ta foi t'a sauvé ». C'est lui qui, au-delà d'une guérison physique, va vivre une guérison plus grande, un salut plus grand. Et je crois que parfois, en tant qu'être humain, on peut avoir une attitude assez similaire envers Dieu, ou l'image qu'on se fait de Dieu. On serait prêt à faire n'importe quoi pour que nos problèmes soient réglés. Il y en a qui vont mettre un cierge à Lourdes pour espérer une guérison. D'autres sont prêts à avaler n'importe quelle pilule miracle vendue par leur marabout jamaïcain bio. On ne sait jamais, hein. Et si Dieu nous demandait d'aller jusqu'à Pékin en trottinette pour régler tous nos problèmes, je crois qu'on serait presque prêt à le faire parfois. Sauf que la foi chrétienne, elle ne requiert aucun pèlerinage, aucune prière spéciale, aucune formule magique. Nous n'avons rien à faire pour être sauvés. Nous n'avons rien à faire pour recevoir la vie éternelle dans la présence de Dieu, puisque Dieu a déjà tout accompli pour nous en Jésus-Christ. C'est lui qui a tout fait pour nous sauver. Le salut, c'est une grâce, c'est un cadeau qu'il nous fait. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est l'accepter, le recevoir et dire merci. Vous voyez, c'est le béaba de la foi, dire merci, la reconnaissance. C'est le point de départ de notre vie avec Christ. Dans quelques jours, nous allons fêter Noël, et à Noël, nous prenons le temps de fêter, de célébrer ce que Dieu a fait pour nous, non pas cette année, mais il y a déjà bien longtemps, hein. Jésus est venu sur cette terre il y a maintenant plus de 2000 ans. Et c'est intéressant de se dire, voilà, que on remercie Dieu pour ce qu'il a déjà fait il y a bien longtemps pour nous. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué par quel livre commence le Nouveau Testament. On a deux parties dans nos Bibles, et le Nouveau Testament commence par quel livre? Par des évangiles. 4 évangiles. Et que trouve-t-on dans les évangiles? Les évangiles nous racontent la venue du Fils de Dieu sur terre, Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Le Nouveau Testament ne commence pas par une série de lois ou de commandements où il faut faire ça ou il faut faire ci. Dieu ne commence pas par nous demander de lui obéir. Il ne nous explique pas ce que nous devons faire pour pouvoir obtenir enfin le salut. Non, le Nouveau Testament commence par nous rappeler ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il a déjà accompli pour nous, avant même que nous ne faisions quoi que ce soit pour lui. Alors bien entendu, la Bible nous montre aussi comment vivre une vie qui honore Dieu, comment se mettre à la suite du Christ. Mais nous ne pouvons pas vivre notre vie en Christ si on ne fait pas de la reconnaissance le point de départ. La vie chrétienne, ça ne consiste pas à faire le bien autour de soi dans l'espoir d'obtenir le salut. Si nous sommes appelés à faire le bien, c'est parce que nous avons compris et saisi la bonté de Dieu envers nous. Si nous agissons, c'est parce que nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à donner parce que Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à aimer parce que Jésus nous a aimés le premier. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Voyez le mouvement? La reconnaissance est première et fondamentale pour la vie chrétienne. Si je ne suis pas reconnaissant pour ce que Dieu a fait, ça va être dur de me mettre à la suite du Christ. Il n'y a même pas de salut possible si je rejette le cadeau que Dieu me fait. La reconnaissance est fondamentale. C'est le point de départ. Et au-delà de ce point de départ, c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre au quotidien. Vivre dans la reconnaissance. C'est un état d'esprit qu'on est appelé à adopter. Alors c'est vrai que, au-delà de cette reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous par son salut en Jésus-Christ, dans le quotidien, ce n'est pas toujours simple de vivre dans la reconnaissance chaque jour, surtout dans les jours difficiles. Comment? Qu'est-ce qui pourrait nous aider pour entrer dans cette attitude-là? Il y a un passage de l'Épître aux Philippiens que j'aimerais aussi lire avec vous ce matin qui me semble intéressant, un passage bien connu qu'on aime souvent beaucoup, qui donne quelques pistes dans cette direction. Philippiens, chapitre 4, au verset 4. Certains disent que c'est le 4-4 de la foi. « Réjouissez-vous en tout temps dans le Seigneur. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu par des prières, par des requêtes, avec reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Une belle exhortation. Et à nouveau, je crois, ce qu'on trouve au début, première chose qui est mise en avant, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et ça nous rappelle, là encore, un premier point pour la reconnaissance, pour la joie chrétienne. C'est qu'on est appelé à mettre l'Évangile, le Seigneur, Jésus-Christ, au centre de notre foi. Autrement dit, nous sommes invités à centrer notre foi sur ce qui est au centre de la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Dans l'Épître aux Philippiens, donc on a eu un extrait, l'apôtre Paul parle beaucoup de la joie. C'est souvent, on dit, l'Épître à la joie. Premier chapitre, déjà au verset 18, il dit « Le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. » Il ajoute « Qu'importe les arrière-pensées de ceux qui annoncent l'Évangile, dit-il, le Christ est annoncé, ça suffit à ma joie. » Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul se réjouit? Parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'il écrit cela, lorsqu'il écrit cette lettre à l'église de Philippe, il n'est pas au beau milieu d'une grande campagne d'évangélisation. Hein, non, il est en prison. Il a été injustement arrêté à cause de sa foi. Il croupit injustement au fond d'une prison. Et je ne sais pas si vous imaginez, lui, le grand apôtre, qui trépigne d'impatience de pouvoir parcourir le monde pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et il est au fond d'une prison. Et pourtant, dans cette situation-là, il peut écrire ces mots qu'on a lus tout à l'heure, où il témoigne de sa joie profonde. C'est dans ces circonstances qu'il se réjouit. Ce qui montre que la joie de Paul dépasse largement les circonstances. Et dans notre passage, comme je l'ai dit, l'apôtre Paul précise encore la raison de sa joie et dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur !» Réjouissez-vous dans le Seigneur. Autrement dit, réjouissez-vous de ce que le Seigneur est pour vous. Réjouissez-vous à cause du Seigneur. Ça, c'est la raison de notre joie. Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est une raison permanente de se réjouir. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire « Soyez toujours dans la joie, en toutes circonstances. » C'est bien pour ça qu'il peut déclarer « Je me réjouis et je continuerai de me réjouir parce que Jésus-Christ ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est notre Sauveur, notre Seigneur, celui qui a donné sa vie pour nous, le Dieu Tout-Puissant, qui s'est abaissé, qui s'est humilié par amour pour nous, il est notre Créateur, notre Frère, notre Ami, et ça, ça ne change pas, quelles que soient les circonstances, c'est une vérité. Voilà qui il est pour l'éternité. Voilà le sujet numéro un de la joie du chrétien. Ça, c'est la seule joie permanente et éternelle. Et encore, je crois qu'en tant qu'être humain, on a parfois tendance à transformer Dieu en un Dieu utilitaire. C'est-à-dire, on croit en Dieu parce qu'il va résoudre mes problèmes. Ou parce qu'il va pouvoir me guérir, ou parce qu'il va pouvoir me protéger, ou parce qu'il va pouvoir m'assurer la prospérité, ou pourvoir mes besoins. Dieu est pour nous d'abord celui qui prend soin de mes besoins du quotidien. Alors ça fait partie du message biblique. Toutes les bonnes choses nous viennent de Dieu, hein. C'est une vérité. Mais ce n'est pas le cœur de la foi chrétienne ou de la parole de Dieu. Et ce qui est central dans la Bible, ce qu'annonce l'Ancien Testament, ce que nous présente le Nouveau Testament, c'est avant tout la venue de Dieu à notre rencontre en la personne de Jésus-Christ. Ce qui est le cœur de la révélation, c'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, nous offrir la vie éternelle. Ça, c'est le cœur de notre foi. Et c'est pour ça qu'on peut se réjouir à Noël, où on célèbre la venue de notre Sauveur, mais tous les jours de notre vie également. Si nous plaçons cette vérité au centre de notre vie, on ne peut que être tous les jours reconnaissant. Si on se rappelle que c'est le principal sujet de reconnaissance, qu'il n'y en a pas de meilleur possible, alors tous les jours, on peut être reconnaissant. Je sois dans l'abondance ou dans la détresse, malade ou en bonne santé, en danger, en sécurité, quelle que soit ma vie, quel que soit mon parcours, quelles que soient mes difficultés, cette vérité, elle reste là. Elle est toujours valable. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si je crois en lui, je puisse avoir la vie éternelle. Ça, c'est le cœur de ma foi. C'est ça qui devrait occuper mes pensées en priorité. Et c'est pour ça qu'on peut suivre ce que Paul nous dit, d'être toujours joyeux dans le Seigneur. Voilà, déjà, premier point, qui me semble essentiel, la meilleure manière de vivre une vie dans la reconnaissance, c'est mettre ce qui compte le plus en priorité pour notre vie. Un deuxième conseil qui se retrouve dans le passage qu'on a lu de Philippiens, c'est au verset 6. « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu par des prières, des requêtes, avec reconnaissance. » Lorsqu'il y a quelque chose qui nous tracasse, lorsque les soucis, les difficultés commencent à entamer un peu notre joie, Paul nous invite à avoir un réflexe qui est de remettre tout ça à Dieu, de déposer tout cela dans la prière. Et surtout, dit-il, c'est assez étonnant, d'accompagner notre prière de reconnaissance. Il y a une dizaine d'années, alors que nous habitions encore à Saint-Étienne à l'époque, nos enfants étaient plus jeunes. Désolé les enfants, je vais encore raconter cette histoire. On était tombés en panne de voiture en plein sur l'autoroute alors qu'on allait rendre visite à la famille en Alsace, comme on va le faire cet après-midi, mais maintenant on prend le train parce qu'on voilà, on est à Paris. Mais à l'époque, voilà, on s'était déplacé en voiture depuis Saint-Étienne jusqu'en Alsace, en hiver, vous savez, les vacances de Noël, il y a pas mal de monde sur la route. Et puis, on est tombé en panne. La courroie de distribution nous a lâchés, moteur cassé, forcé de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. On est dans un pays quand même privilégié, puisque quelques minutes plus tard, on avait un camion de dépannage qui était là. On est monté dans le camion qui nous a conduit jusqu'au garage le plus proche. Mais autant vous dire que pour moi, ce n'était pas forcément une bonne journée. Voyage compliqué, beaucoup de stress, l'inquiétude des factures qui viennent derrière, en général, quand il y a de la casse comme ça, quand il y a des réparations à faire. Mais ce soir-là, au moment d'aller se coucher, on a l'habitude d'avoir un petit temps de prière avec les enfants avant de dormir. Et les enfants, ils avaient quand même un autre regard, c'était étonnant, sur la journée écoulée. Ils avaient en particulier un sujet de reconnaissance. Ils étaient tout heureux d'avoir fait un tour de camion. Et c'est vrai que bien souvent, nous oublions d'avoir un regard presque d'enfant, on pourrait dire, face à notre Père Céleste. C'est tellement facile de se focaliser sur ce qui va mal, hein, que nous n'arrivons plus à voir les bontés de l'Éternel dans le quotidien. Et nous passons du temps à énumérer tous nos sujets de prière, mais nous oublions parfois de remercier le Seigneur. Et Paul nous dit « Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières », c'est bien, il faut lui faire connaître nos besoins. Mais faites-le avec reconnaissance aussi. Et je pense que c'est bien de prendre cette bonne habitude dans nos temps de prière personnels, de s'arrêter régulièrement dans son train-train quotidien et de se dire, voilà, pourquoi est-ce que je peux te remercier Dieu? Même des choses simples de la vie de tous les jours. Et avant de prier, voilà, vraiment prendre ce temps, se mettre devant Dieu et se poser cette question. Et commencer par remercier Dieu. Peut-être avant de lui présenter aussi nos demandes, nos requêtes. Et ce conseil s'accompagne d'une promesse hein, dans ce texte au verset 7. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que si nous lui faisons confiance dans la prière, Dieu nous aidera à conserver cette joie paisible qui vient de son esprit. Ayons donc la foi aussi dans cette promesse de Dieu. Et puis un troisième, dernier conseil pour une vie de reconnaissance qu'on trouve dans le petit passage qu'on a lu. Paul nous dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Paul nous encourage, la parole de Dieu nous encourage, à occuper nos pensées, non pas avec des idées noires, mais avec des choses positives, encourageantes, belles. Alors, veiller sur ses pensées, ce n'est pas toujours facile, hein? Et pourtant, c'est important. Et ça, c'est quelque chose qui, au-delà de la foi chrétienne, est reconnu. William James, qui est un des pères de la psychologie moderne, a écrit « La plus grande découverte de ma génération, c'est que l'être humain peut modifier sa vie en modifiant son état d'esprit. » que William James pensait avoir découvert avec sa génération, en fait, ça n'a rien de nouveau, puisque dans la Bible, c'est quelque chose qu'on trouve depuis écrit à plusieurs passages, et ça faisait plusieurs milliers d'années auparavant. Il y a plusieurs passages de la Bible qui nous invitent à veiller sur notre cœur. L'auteur des Proverbes écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est la même idée. Hein? Jésus nous dit que c'est du cœur que peuvent sortir à la fois les bonnes choses, mais aussi les mauvaises choses, les péchés en tout genre. Il nous dit que lorsqu'il y a un mauvais trésor dans le corps de l'homme, il en tire des mauvaises choses. Quand il y a un bon trésor dans le corps de l'homme, il en tire de bonnes choses. Et vous savez, dans la pensée juive, nous, on pense au cœur, on pense aux émotions, à l'amour. Mais dans la pensée juive, le cœur, ce n'est pas seulement le lieu des émotions, c'est avant tout le lieu, c'est tout notre être intérieur, c'est nos pensées aussi. Ce sont nos pensées. Nous, on situe les pensées dans le cerveau, mais les juifs, ils le faisaient dans le cœur. Eh bien, quand on dit garde ton cœur, c'est garde tes pensées. Bien avant la psychologie moderne, la Bible avait montré que nos pensées vont influencer nos actes, notre vie. Et c'est pour cela qu'il faut veiller sur elles. Et je crois que là aussi, nos médias, en général, peuvent facilement nous remplir la tête hein, de tout ce qui est triste, peut-être honteux, injuste, impur, indigne, révoltant, intolérable. C'est ça qui marche en général, hein, qui attire l'attention. En tant que Français, hein, on est aussi champion en général pour voir ce qui ne va pas. Hein. Ce qui ne va pas. Ça, c'est, on est connu pour notre esprit très critique. Hein. On est champion pour remplir nos têtes d'idées négatives sur les autres, sur les politiques, les patrons, les groupes pharmaceutiques, nos voisins, nos proches, et même nous-mêmes. Et puis c'est vrai, tout va mal, c'est la crise, notre société bat de l'aile, rien ne va plus, et puis il y a les guerres, il y a les attentats, la violence, le danger environnant, les difficultés, la faim dans le monde, les injustices. C'est facile, vous voyez, de nourrir nos pensées d'idées négatives. Alors que la parole de Dieu nous demande de nous focaliser sur l'inverse. Nourrir nos pensées de ce qui est encourageant, des bonnes choses que nous voyons autour de nous, des actes de justice qui sont admirables, de tous ceux, de toutes les personnes que nous pouvons admirer et approuver, de ce qui est réjouissant, de ce qui est beau, de ce qui est formidable. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand on fait cela, on regarde ce que Dieu fait. Parce que toute bonne chose dans ce monde, il est le Père des Lumières et tout don parfait, tout don excellent vient de lui. Toute bonne chose dans ce monde a pour origine la grâce de Dieu. Alors prenons cette bonne habitude de savoir de temps en temps fermer un peu les portes hein, d'entrée sur ces pensées négatives. Alors, si c'est la télé qui nous remplit la tête d'idées négatives, sachons l'éteindre, ou alors changer de programme, avant qu'elle commence à affecter nos pensées. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être Internet. C'est important de temps en temps de savoir se déconnecter. Vous savez comment fonctionnent d'ailleurs les réseaux sociaux, hein? C'est fait pour vous montrer du contenu qui vous intéressera. Donc plus vous regardez du contenu d'un certain type, plus on va vous en mettre et en remettre. Alors là aussi, si vous prenez l'habitude de valoriser le contenu encourageant, positif, qui rend gloire à Dieu, ben vous en aurez normalement de plus en plus sur votre réseau social. Si vous faites l'inverse, ça sera l'inverse. Alors, ça ne marche pas parfaitement, hein, mais c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Sachons refuser également parfois vous savez, les conversations qui vont être centrées sur la critique, de façon destructive, sur la médisance, sur les difficultés, sur les choses horribles qui nous entourent. C'est important de savoir dire stop de temps en temps à ces pensées négatives. Alors on pourrait se dire que refuser les pensées négatives, c'est un peu Est-ce que c'est pas voiler la face et un peu fermer? Est-ce que ça serait pas fermer les yeux sur un monde en détresse? Tout n'est pas, on sait bien que tout va pas bien dans notre monde. Mais je crois que c'est pas ça qu'on est invité à faire. Il s'agit pas, bien entendu, de se créer une sorte de petite bulle où tout le monde il est gentil, il est beau et tout va bien. Hein. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. On n'est pas appelé à vivre dans une bulle imaginaire ou dans un monde imaginaire. Mais c'est l'idée de ne pas se laisser envahir par ce qui est faux, honteux, injuste. Parce que si on devient incapable de voir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est admirable, on peut devenir désabusé, démotivé, paralysé par la peur. Nous avons besoin d'avoir à l'esprit un Dieu qui est bon, parce qu'il est bon, qui fait de belles choses, pour pouvoir avoir la foi aussi nécessaire à l'action, hein. Nous avons besoin de voir comment Dieu peut utiliser l'être humain pour faire de belles choses parfois, pour pouvoir œuvrer ensemble aussi pour le bien. Et la Bible nous invite à nous inspirer des héros de la foi, de ceux qui ont fait de belles choses par l'aide du Seigneur, dans la grâce de Dieu. Et ça, c'est une motivation aussi pour persévérer. Nous sommes encouragés à fixer nos yeux sur, par-dessus tout, l'exemple le plus parfait d'amour, de pardon et de service qui est celui de Jésus-Christ, pour pouvoir nous aussi aimer, pardonner, servir. Et quand on prend cette habitude de nourrir nos pensées de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, nous rendons gloire à Dieu, en reconnaissant que c'est lui qui est à l'œuvre à travers cela, dans notre monde aujourd'hui. Là aussi, c'est quelque chose, une bonne habitude à prendre de temps en temps. Écoutez peut-être des témoignages encourageants, ou des reportages, ou même des films, ou des choses qui montrent des beaux exemples, des belles choses qui ont pu se faire. En ayant cette attitude-là, on prend l'habitude de détourner nos pensées du péché et de tout ce qui est l'œuvre du diable, hein, pour centrer nos regards sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Voilà donc ce que là, j'aimerais vous laisser pour cette fin d'année, cet appel à vivre une vie marquée par la reconnaissance. Parce que la reconnaissance est, on l'a vu, un fondement de notre vie chrétienne. Et rappelons-nous de ces trois conseils, donc, centrer notre foi sur la bonne nouvelle de l'Évangile, sur ce qui est central, la venue de Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ. C'est Noël, c'est le moment aussi où on peut le faire encore plus dans cette période. Deuxièmement, remettons nos besoins au Seigneur, en accompagnant cela de prières, mais avec reconnaissance. Et troisièmement, veiller sur ses pensées pour aussi les nourrir de tout ce qui rend gloire à Dieu. En cette fin d'année, je vous invite à prendre ce temps aussi pour faire le point sur l'année écoulée et remercier Dieu pour toutes les bonnes choses, pour tout ce qu'il a accompli pour vous. Mais surtout, en cette période où on va prendre aussi bientôt des bonnes résolutions, je ne sais pas vous, je voudrais vous proposer une bonne résolution pour l'année 2025, ben décider de vivre cette année dans la reconnaissance. Au mois de janvier, on a d'ailleurs l'occasion de s'encourager dans cette démarche, puisque le thème du mois de janvier, ça sera l'adoration. Et on va même commencer avec le jeudi 2, au lieu de faire notre réunion de prière habituelle, on aura une soirée de louange. Donc, ça sera que des prières de louange pour ce temps-là, pour commencer l'année dans la louange, dans l'adoration, pour ce que Dieu est, pour ce qu'il fait. Et prenons cette bonne résolution de louer Dieu chaque jour pour ce qu'il fait, pour nous, au quotidien. Et par-dessus tout, le remercier pour le cadeau le plus incroyable qui nous est fait en Jésus-Christ. Et ça aussi, c'est intéressant parce que chaque année, on fête Noël avant Nouvel An, hein, n'est-ce pas? Une semaine d'écart, ça revient tous les ans. Et je crois que c'est une bonne manière de se rappeler que si nous pouvons faire face à une nouvelle année avec confiance, c'est pas parce qu'on aurait des bonnes capacités ou des bons politiciens qui seraient là pour nous donner confiance, mais parce que le Fils de Dieu est déjà venu, il y a plus de 2000 ans, pour nous offrir la vie éternelle dans la présence de Dieu. Et que si nous plaçons notre confiance en lui, alors ça sera une belle année dans sa présence. J'aimerais qu'on reprenne peut-être le chant qu'on a chanté tout à l'heure, « Bénis l'Éternel » en toutes circonstances. Je ne sais plus les paroles exactes, on a chanté vers le début, si vous êtes d'accord. Comme une manière de répondre à ce message. Un chant qui dit, on se dit, « En toutes circonstances, je choisis de louer le Seigneur, d'être reconnaissant, de bénir l'Éternel. » Est-ce que vous êtes d'accord de faire cela ? Je vous invite juste à peut-être, si vous êtes d'accord, à vous lever, puis je vais prier, puis on va rechanter ce chant pour dire, Seigneur, oui, Seigneur, nous souhaitons vivre cette année dans la reconnaissance. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi ce matin, et en cette fin d'année où le temps est souvent l'heure du bilan, nous ne voulons pas simplement fixer les yeux sur ce qui n'est pas allé ou qui a été difficile dans cette année, mais savoir tourner les regards vers ta bonté, vers ta bienveillance, vers toutes les bonnes choses que tu as accomplies pour nous dans nos vies, même les plus petites, même les détails peut-être de nos vies, et tout ce qui est bon, Seigneur, toute chose nous vient de toi. Et par-dessus tout, Seigneur, en cette période de Noël où nous nous rappelons ta venue sur cette terre pour nous sauver en Jésus-Christ, nous voulons avoir en tête ce sujet numéro un pour notre joie, notre louange, notre reconnaissance. Merci Seigneur d'être venu nous sauver. Merci d'être venu vers nous avant même que nous soyons nés, avant que nous fassions quoi que ce soit. Tu es venu donner ta vie pour nous. Tu es venu montrer ton amour en vivant sur cette terre, en mourant sur la croix pour nos péchés, en ressuscitant le troisième jour. Alors qu'à toi revienne toute la gloire, tout l'honneur. Et Seigneur, je te prie pour que ton Saint-Esprit nous rappelle chaque jour la grandeur de ton œuvre pour nous. Que ton Saint-Esprit nous rappelle chaque jour la joie de se savoir sauvé, de savoir en toi, et que cette joie puisse être communicative autour de nous. Nous puissions être porteurs d'une bonne nouvelle autour de nous. Au nom de Jésus, nous prions.